de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Moi, j'aimerais que, pendant qu'on a un temps où on peut voir nos visages, vous vous tourniez vers vos voisins et que vous leur disiez, avec moi, c'est bon, vous les voyez, chacun a son visage, son sourire, je trouve que vous êtes tellement beau sans masque. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, on inscrit ça sur nos vies, ça veut dire la faveur de Dieu, vraiment le regard favorable de Dieu sur vous. C'est quelque chose qui ne change pas, qui est inscrit sur vous. Et est-ce qu'il y en a qui ont eu, je sais qu'il y en a un, mais il y en a d'autres qui ont eu leur anniversaire cette semaine ou la semaine prochaine. Levez la main, s'il vous plaît. Alors, levez-vous. Jean-Pierre, on sait, mais tu arrives encore à te lever, madame derrière. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Alors, on se tourne vers eux et on met notre main et on leur dit que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aurais voulu qu'on introduise les deux versets d'Ésaïe qui ont été lus lors de notre assemblée générale de hier matin, et qui, moi j'ai zappé pas mal d'événements dans cette église, notamment les visiteurs externes, et qui ont résumé un petit peu prophétiquement les promesses qui sont sur cette église. Alors il y a ce texte d'Ésaïe 42, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Et puis le deuxième, ne pensez pas aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il n'y a pas de suite, je ne me rappelle plus. D'accord. J'ai reçu ce message il y a déjà plusieurs mois et je pense qu'il s'inscrit dans cette perspective que nous avons lue dans le prophète. Et j'aimerais commencer par une première lecture dans le chapitre 11 du livre des Nombres à partir du verset 4. Texte assez connu. Où il nous est dit « Le ramassis de Jean » qui se trouvait au milieu d'Israël, éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes, donc le peuple finalement en entier, recommencèrent à pleurer et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. » Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence de bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyer avec des meules ou la pilait dans un mortier. Puis il la cuisait en pot et on faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait, la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et puis une deuxième lecture dans Hébreux 11, versets 24 à 30. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé, ça c'est très important, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé le sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Le titre de ce message, on retrouvera ce verset plus tard, s'intitule « Si seulement tout le peuple était composé de prophètes ». C'est une phrase que Moïse va prononcer dans la suite de la lecture du livre des Nombres. Nous sommes là au chapitre 11, peut-être déjà au chapitre 10, dans la deuxième partie de ce livre, qui succède à une sorte de mise en place dans les détails de toute la loi de Moïse qui démarre dans Exode 19, je crois qu'il faut que j'enlève mes lunettes, dans Exode 19 et qui traverse le livre des Lévitiques et aboutit au chapitre 9 de ce livre des Nombres. Et cette deuxième partie des trois parties de ce livre, de l'Ancien Testament, c'est le départ du peuple d'Israël dans sa marche dans le désert du Sinaï. Ce départ est accompagné de trois éléments distincts. Dieu ne les laisse pas partir comme cela. D'abord, ils reçoivent la nuée qui dicte la direction à prendre et qui dicte aussi les arrêts à faire d'une manière assez distincte. Et puis, il y a le tabernacle qui, démonté chaque jour, est celui qui est en avant du peuple d'Israël et qui contient la loi de la parole de Dieu, la loi de Moïse, les tables de la loi qu'il a reçues sur le mont Sinaï. Puis la dernière chose, c'est la manne qui descend chaque jour du ciel à la rosée du matin. Chaque famille va la récolter pour, comme il nous est dit au verset 11, sauf erreur, au verset 7, pour elle avait l'aspect de graines de coriandre, et puis, ou surtout, elle avait la consistance d'une sorte de mélasse, de pâte arabique, qu'on appelle le bdellium, et puis qui se trouve sur certains arbres du désert et qu'on peut récolter pour manger. Une fois pilée, une fois battue et cuite, on en faisait des galettes qui avaient un goût d'huile. Voilà les trois éléments qui accompagnent le peuple dans le désert. Et puis Israël a aussi une histoire derrière lui, celle de sa libération de l'esclavage en Égypte sous le joug de Pharaon, et surtout ce fameux passage à sec qui nous est rappelé dans Hébreux, où les eaux se referment sur les poursuivants qui est l'armée d'Égypte. Et il entre ainsi dans une nouvelle étape, il est délivré de son esclavagisme. Et cela va être signifié dans la fête de Pâques que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui. Ils célèbrent donc cette fameuse libération du peuple. Et c'est comme une sorte de marqueur, de fondement total qui va définir la foi du judaïsme encore aujourd'hui. Et nous avons la Pâque qui se poursuit, nous avons aussi une histoire, nous avons aussi cet élément derrière nous qui fait que nous étions esclaves du péché et que Jésus-Christ, par son sang sur la croix, nous a libérés par le fait qu'il a traversé le séjour des morts et vaincu la mort pour ressusciter, nous donne aussi une espérance de salut, mais aussi la promesse d'un royaume dans lequel il revient pour amener un règne de paix, de justice et d'amour dans lequel nous serons pleinement participants et acteurs. Et je crois qu'il y a à la fois le passé sur lequel nous pouvons dire que c'est un acquis, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et puis, il y a à la fois des promesses d'avenir, comme nous l'avons lu dans Ésaïe, et qui font que nous sommes appelés à marcher dans, parfois, le désert, tout en ne nous retournant pas sur, comme nous le verrons après, sur le passé d'esclaves, mais nous marchons dans l'espérance dans laquelle Dieu veut nous faire être des acteurs, celle de notre libération. Et c'est pour ça que dans le repas de la Sainte Cène, il y a à la fois le rappel, la commémoration, mais il nous est dit aussi, faites ceci, Jésus nous dit, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Il y a à la fois le passé et il y a à la fois l'avenir pour que notre présent soit vraiment en lui. Donc Israël reçoit aussi des perspectives de salut. Il a aussi une promesse, celui d'un pays où règne, où coule le lait et le miel. Et cette promesse, il est appelé vraiment à s'accrocher, à vivre dans le désert avec cet objectif, avec cette perspective. Et c'est cela qui est appelé à le faire tenir dans la foi. C'est pourquoi la marche dans le désert, qu'elle soit pour nous ou pour Israël, c'est souvent, autant pour l'Église que pour Israël, une sorte de tension entre des fondements acquis et des promesses à conquérir. Alors, quand on cite l'expression « traversée du désert », souvent, quand on pense à nous, il s'agit d'un passage de dépression, d'une perte de chômage, un chômage prolongé. C'est souvent une épreuve, une maladie, un deuil. Et pour Israël, la réalité du désert, elle est synonyme d'une terre de désolation, où rien n'est cultivable. Il y a le danger des bêtes sauvages, et puis il y a des canicules de température. Alors arrêtons de nous plaindre pour ces 3-4 jours. Rappelons-nous juste, mémoire de jardinier, en 1983, depuis février jusqu'à août, il n'a pas plu à Lausanne, les gazons étaient jaunes. Et le lac d'Annecy était tellement descendu qu'un rocher était apparu, et ceux qui se promenaient autour en barque ont pu lire cette inscription, probablement du 19e siècle où les pompes n'existaient pas, « Celui qui me verra mourra ». Ceci dit, je ne suis pas en train d'être contre le changement climatique, je crois qu'on y est quand même, bref. Mais arrêtons de nous plaindre déjà pour ça, hein. J'entendais hier quelqu'un qui proposait une climatisation dans l'église. Si on n'est pas prêt pour le désert, hein, je peux vous dire. Alors, le texte nous parle d'un ramassis de gens. J'ai regardé plusieurs versions, il n'y a pas trop d'autres termes. Il s'agit de gens, on ne sait pas très, vraiment sûr si c'était des Israélites, vraiment, mais qui commencent à se plaindre. C'est un peu les gilets jaunes dans l'église. Et ils finissent par convaincre tout le reste du peuple qui, lui, pleure et se plaint de cette chaleur qu'il y a dans cette salle et ce pèlerinage dans ces lieux hostiles que sont le désert. Et c'est vrai qu'il y a, pour Dieu, un risque de mutinerie et que le peuple peut tout d'un coup sombrer dans une sorte de dépression et de découragement. Alors c'est vrai que dans ce texte, la traversée du désert, elle est synonyme d'abord de privation et de perte de privilèges. J'aimerais qu'on retienne ces noms. Car la question qui pourrait un jour nous être posée est celle-ci. Ne vaudrait-il pas mieux retourner esclave en Égypte et bénéficier de ses produits à portée de main plutôt que d'être libre et de sécher dans ce désert qui est parfois l'Église. Oubliez l'esclavage et celui-ci devient les jours heureux. C'est extraordinaire. On oublie complètement le passage de la mer Rouge et les conditions d'esclaves rudes qu'on vivait. On se souvient qu'on vivait sous Pharaon. On se souvient juste le soir, les pieds dans l'eau, dans le Nil, où il suffisait de se baisser pour ramasser des poissons pour le repas du soir, ou alors d'aller dans le potager irrigué par les eaux du Nil et de cueillir les concombres, les poireaux, les ailes, l'oignon, le melon pour le dessert. D'autres versions parlent de pastèque. C'était tellement facile. Et c'est vrai que nous vivons dans une société où nous vivons des facilités absolument incroyables dans toutes sortes de domaines, que ce soit la communication, que ce soit des facilités de paiement, que ce soit des dépannages, que ce soit la mobilité, que ce soit des paiements sur Internet, etc. Est-ce que nous n'allons pas un jour rester enfermés dans ces moyens qui sont extraordinaires et géniaux? Ne vont-ils pas tout d'un coup devenir des dépendances le jour où on devra choisir entre ça et autre chose, l'autre chose étant donc notre fidélité à Dieu? C'est vrai que les hamburgers du McDo à Khéops, au Caire, c'est extraordinaire. En plus, vous arrivez avec votre chameau dans le drive et on vous sert un McDo 3 Big Mac. Délicieux, avec du bœuf, première qualité. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, et là, je vous parle de ma chair, quand il y a eu la guerre en Irak, j'ai eu cette idée saugrenue de manifester contre le président Bush et les Américains en boycottant le McDo. Alors, quand on vient à l'église après une journée de travail, qu'on n'a pas le temps de souper, qu'on vit des bonnes réunions, et puis que vous crevez de faim à 10-11 heures le soir, et puis que vous êtes sur votre scooter, puis que vous passiez devant le McDo, puis dit « Au nom de Jésus, je vous condamne !» Ben, au bout de 3 ans, j'ai craqué. J'ai craqué. Pardon, Seigneur. Donc, écoutez ses désirs, écoutez sa chair. Ce n'est pas non plus une lutte par soi-même. Et je pense que la première expression, c'est d'éviter, de faire attention de ne pas nous retourner vers le passé en excluant ce que Christ a fait pour nous, en excluant notre foi, en reniant notre foi. C'est le risque du reniement de notre foi. Et c'est le piège qui tend à Israël, celui de revenir au bord des eaux du Nil et de retrouver cette condition d'esclave. Mais il y a une chose, c'est que, comme il était dit dans les textes d'Ésaïe, nous devons absolument inscrire notre foi, non pas seulement dans des acquis sur ce que Christ a fait pour nous, mais sur les promesses d'un royaume de paix, de justice et d'amour, dans lequel Dieu veut nous faire participer. Et nous sommes les ambassadeurs de cette ambition que Dieu a pour nous, quelles que soient les circonstances. Et je vous encourage, frères et sœurs, chaque fois, non pas simplement à dire merci parce que tu m'as libéré de mon péché, mais vraiment à dire Seigneur, je suis à ta disposition. C'est vrai que ce n'est pas toujours très facile, mais employe-moi pour que je sois employe mes talents, employe mes dons, je suis à ta disposition pour être un instrument qui servira d'agent du royaume, déjà maintenant, mais aussi définitivement quand Christ établira son règne. Et je crois que c'est là l'enjeu aussi de ce matin, c'est que vraiment notre foi soit inscrite dans une perspective de changement, d'avenir et de choses qui changent tout le temps. Dieu ne change pas, nous changeons tout le temps. De toute façon, les circonstances nous les amènent, mais il s'agit de changer dans le bon sens. Alors j'aimerais lire. Alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va convoquer Moïse et il va lui donner des ordres. Et nous lisons au verset 24 à 29, s'il vous plaît. Moïse sortit selon l'ordre de l'Éternel et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Et Dieu avait dit, rassemble 70 hommes des anciens, pas tous les anciens, mais 70, chiffre qu'on connaît dans le Nouveau Testament. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit de l'onction qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils fussent point allés à la tente qui était la présence de Dieu. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Et c'est là que nous allons prier pour cela. Tout à l'heure, Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux et sur vous. » Amen. Il faut que je relise un peu mes notes pour ne pas dire de bêtises. En 1598, le roi de France Henri IV, avec peine, va promulguer un édit de Nantes qui autorise le culte, la liberté de culte aux protestants français du royaume. Il peut aussi, ils retrouvent certains droits civils et politiques. Cet édit de Nantes, comme on l'appelle, va subir déjà après moins de 30 ans pas mal de restrictions. Et 87 ans plus tard, en 1627, il sera abrogé par le fameux Louis XIV, qui était une sorte de figure d'antéchrist, en tout cas pour ceux qui l'ont connu à l'époque. Et à cette révocation de l'édit de Nantes, les lieux de culte vont être brûlés, les pasteurs et les hommes qui refusent d'abdiquer vont être mis au cachot, et je ne vous parle pas des prisons actuelles, au cachot et aux galères à vie. Les enfants vont être réquisitionnés dans les couvents pour être désendoctrinés et plein d'autres persécutions aussi. Alors beaucoup fuient sur la Suisse, le Brandenburg, Londres ou encore la Hollande et l'Irlande. Et on va dire jusqu'à un quart du royaume va être vidé souvent de gens assez instruits et qui possédaient des techniques dont nous bénéficions aujourd'hui en Suisse, comme l'horlogerie. Dans ce contexte de persécution et de désolation, de désert, va apparaître de façon soudaine, surprenante, un phénomène absolument incroyable et qui va toucher deux régions, en particulier le Dauphiné et les Cévennes, et qu'on va appeler le prophétisme cévenol. Des témoignages vont être recueillis plus tard sur l'expression de ce prophétisme à Londres, où plusieurs témoins qui l'ont vécu de près vont raconter, et c'est un certain Claude Brousson qui va rassembler au début du 19e siècle un livre qui personnellement me bouleverse encore, m'a traversé, qui s'appelle « Le théâtre sacré des Cévennes ». C'est une série de témoignages époustouflants dans un contexte de désert. Et parmi les choses les plus incroyables, il y a d'abord, ça touche souvent des illettrés, donc des gens simples, heureux, comme il était dit dimanche dernier, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. ça touche des adolescents, et ça touche des enfants, et ça touche des bébés au sein dans le sein de leur mère, qui, ne pouvant pas parler, commencent à exprimer la grâce de Dieu, les promesses de Dieu, l'encouragement de Dieu, dans la langue du roi, donc le français, alors que la plupart parlaient l'occitan. Évidemment, c'est absolument extraordinaire, mais les gens sont tout d'un coup persécutés, mais saisis par ces promesses de Dieu, et ils vont avoir besoin de se rassembler dans ce qu'on va appeler les assemblées du désert, en souvenir. Les huguenots donc, vont se rassembler dans des grottes, au fond des gorges profondes des garrigues pour se cacher. Et là, ils vont célébrer la gloire de Dieu, chanter les psaumes, écouter la parole de Dieu à travers les prédicants, à travers les pasteurs qui n'ont pas nié la foi. Et ça va donner une sorte de réveil absolument extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cause de ce réveil, Louis XIV va envoyer 75 000 hommes pour réprimer ce qu'il appellera une sorte de révolte, et des villages vont être brûlés, etc. Et surtout, il va soudoyer des personnes qui vont s'infiltrer dans les assemblées pour dénoncer les lieux où ils se cachent et pour pouvoir ainsi retrouver ce peuple un petit peu invisible qui, encore une fois, est saisi par une sorte de prophétisme qui les lance dans une perspective face à l'antéchrist que sont le pape et Louis XIV, et dans vraiment une perspective de royaume. Et je ne peux pas m'empêcher de vous raconter un témoignage qui, je pense que nos amis là le connaissent, l'histoire de Clary. Alors, imaginez une assemblée un peu plus nombreuse que la nôtre, 200, 300 personnes cachées dans les forêts profondes de la Garrigue. Nous avons une maison là-bas, je peux vous dire qu'on s'y est perdu une fois avec ma femme. On a mis des heures à en ressortir, épuisés pendant que nos enfants, qui étaient tout petits, ne se sont pas posés des questions. Et grâce à un type qui nous a ramenés des kilomètres plus loin, on les a retrouvés à 10h le soir en train de regarder la télé. Bon, c'est pour vous dire, la Garrigue, c'est pas évident. Vous avez une colline, un rocher, une colline, ça continue comme ça. Et là, Clary, il arrête le culte et il dit, il y a deux espions, et il les nomme. Alors, ces deux-là, c'est des gens qui sont venus nous espionner pour nous dénoncer. Alors, les deux hommes protestent, et puis l'assemblée est un peu compréhensible aussi avec eux. Alors lui, il dit, alors on va dresser un bûcher, et ils vont faire une sorte de feu comme au 1er août. Vous allez l'allumer, je vais me mettre dedans, et si je ressors calciné, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu, et si je ressors indemne, c'est que c'est vrai. Alors, je ne peux pas vous résumer le texte, parce qu'évidemment, imaginez un feu, et puis que tel est tel, bah tiens, moi par exemple, c'est un énorme brasier, et Clary se met dedans, devant l'horreur des gens, et quelques minutes après, il ressort indemne, sans aucune cicatrice, sans aucune brûlure, sans rien du tout. Je peux vous dire que les gens se sont humiliés devant la parole prophétique de Dieu, et ces deux ont été démasqués, évidemment, et ça donnait vraiment des élans d'humiliation, d'encouragement, de voir que Dieu parle par son esprit pour conduire son peuple dans le désert. Alors on revient à notre texte quand même, parce que c'est un petit peu différent, et il se trouve que là, 70 anciens sont choisis, et qu'est-ce qu'ils vont prophétiser ? D'abord, heureusement, il y en a deux dans le peuple, donc le peuple a pu entendre Hédad et Médad prophétiser les merveilles de Dieu. Alors c'est très court, semble-t-il, mais ça a l'air tellement extraordinaire que Moïse dit, mais si tout le peuple pouvait recevoir cette onction prophétique qui nous renvoie aux promesses de Dieu pour nos vies, et aux promesses de salut. Et c'est ça l'enjeu pour nous aujourd'hui. Je crois qu'on peut plus se contenter de vivre une sorte de liturgie charismatique. Nous avons besoin d'entrer dans des choses vraiment nouvelles. Et Dieu te cherche pour cela. Peut-être que tu connais pas bien la parole de Dieu, tu es peut-être comme un analphabète de la parole de Dieu, peu importe. Quand tu es saisi par l'Esprit de Dieu, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence dans l'Église. Et peut-être que tu es un simple ado, puis tu te dis, ouais, Christone, 40 ans de vie, 15, ou 50 ans de vie chrétienne, non, pas encore, non. Je ne lui arrive pas à la cheville. Au contraire, c'est moi qui viens te laver les pieds, parce que Dieu a vraiment besoin, on a besoin de toi pour que tu prophétises, jeune homme, jeune fille. Bref, alors, on va aussi prier tout à l'heure pour les enfants qui sont à l'école du dimanche, pour qu'eux aussi prophétisent, pour qu'eux aussi soient saisis par l'Esprit de Dieu, pour que cette prière de Moïse qui est la nôtre ce matin, que tout le peuple de Dieu prophétise, que tout le peuple de Dieu soit saisi par l'onction de l'Esprit qui est sur Jésus. Alors là, c'était sur Moïse, la présence de Dieu était sur Moïse, elle est descendue sur quelques-uns, et là, je pense que ces 70 anciens, ils ont dû être marqués à vie, et je pense que ça leur a permis de tenir ces 40 ans de marche dans le désert. Peut-être sont-ils morts, peut-être sont-ils arrivés, il y avait probablement Caleb et Josué, ça on le sait, mais peut-être ont-ils traversé, ont pu entrer dans le pays de la promesse, je ne sais pas. Mais voilà un peu ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager avec vous ce matin, d'être marqué par le sceau de l'onction de l'Esprit et ne pas se retourner simplement sur les éléments du passé, mais d'entrer dans ce que Dieu veut nous révéler. Et pour cela, il nous faut simplement nous dire, Seigneur, on se met à ta disposition. Je crois que il veut déverser son onction prophétique, qu'il veut renouveler sur son peuple ce matin. Et j'aimerais volontairement demander aux musiciens de rester sur place, parce que c'est aussi pour eux. Et puis comme ça nous permet d'être un petit peu dans le silence, de ne pas vivre cette liturgie avec de la musique derrière. Simplement, je vous invite à un temps maintenant de prière où on se met à disposition du Seigneur. Mais pour ceux qui vraiment le désirent, alors il y a un prix à payer, peut-être, je ne sais pas. Je vous demanderai de vous lever, ceux qui désirent, dans la prière, à un moment donné, vraiment vous mettre à disposition de ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, « Je désire que tout le monde reçoive les dons, mais encore plus que tous prophétisent. » Dans chapitre 14, verset 1, des 1 Corinthiens. Nous prions. Que tous ici, si seulement tout le peuple du Seigneur, dit Moïse, devenait un peuple de prophètes, ça c'est la version Tob, sur qui le Seigneur aurait déversé son esprit. Seigneur, c'est avec une certaine faiblesse et une certaine humilité que nous nous présentons devant toi tous ensemble. Merci parce que tu nous vois sans différence, sans distinction. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a ceux que tu cherches pour être à ta disposition, pour pouvoir ouvrir la bouche, pour être saisi et pour pouvoir annoncer des choses nouvelles, pour que le peuple de Dieu soit encouragé, pour que le peuple de Dieu ne se retourne pas en arrière, pour que le peuple de Dieu entre dans les perspectives des promesses qui lui sont destinées à travers Jésus-Christ et son règne à venir. Seigneur, descends avec ton onction maintenant. Dépose-la comme une rosée sur nos vies, sur la vie de chacun, indépendamment de nos situations parfois chaotiques, Merci parce qu'on a dit que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous l'avons inscrite au début du culte sur nos vies. Donc, avec ce mandat-là, Seigneur, nous voulons recevoir plus d'esprit. Coule, Saint-Esprit. Descends sur ton peuple. Descends sur les enfants à l'école du dimanche. Descends sur les moniteurs. Descends sur les anciens et les pasteurs. Coule, Saint-Esprit. Libère. Libère, Seigneur. Libère nos cœurs. Tu veux le faire d'une manière paisible. Tu veux le faire vraiment d'une manière paisible. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons être prêts dans les cultes qui suivent à être saisis, à être emportés par toi, à ouvrir la bouche, à annoncer des choses que nous n'avons jamais entendues mais qui viennent du ciel. Désirons, Seigneur, profondément que le ciel, les choses du ciel que tu as données aux 70 anciens descendent sur la terre. Nous en avons besoin, tu vois le désert qui est nos vies, tu vois le désert qui est aussi parfois l'Église. Alors ce n'est pas encore la persécution, mais nous ne voulons pas attendre cela, nous voulons déjà exercer, nous voulons déjà intimement recevoir des pensées, des paroles, et puis oser, Seigneur. Alors ceux qui sont d'accord d'oser ce matin, je vous demanderai simplement, on garde les yeux fermés, y compris moi, ceux qui sont d'accord d'oser, dès maintenant, je vous demanderai de vous lever. Il n'y a pas de distinction, mais Dieu a besoin aussi de voir ceux qui peut-être ont le feu déjà qui démarre là maintenant. Alors Seigneur, tu vois toi-même les cœurs. Et tu n'exclus pas, il n'y a pas deux catégories, il n'y a pas ceux qui se lèvent, mais Seigneur, tu vois qu'il y en a qui aspirent profondément à ce que tous prophétisent, chacun ses dons, tu respectes chacun, mais tu donnes aussi peut-être à celui qui ne s'y attend pas, celui qui n'est pas prêt, que ta grâce maintenant coule vraiment, que ta paix coule sur chacun d'entre nous et que la liberté de l'esprit nous libère nos langues, nos paroles. Amen. Nous restons encore dans un temps de silence. Amen. Je voudrais juste, alors là je suis un peu dans la nostalgie, mais vous dire que la période que j'ai préférée à l'église Lazare, j'ai été 21 ans ancien de l'église, c'est la période où nous étions en train de construire cette église, il y avait du retard, nous avions donné notre congé au Bâche, au chemin des Bâches 2 je crois, un peu plus loin. Et nous devions absolument jongler avec une école du dimanche qui avait lieu vers les bois des Cublons, là-bas, près du truc de pain de la Migros, avec un car qui ramenait les enfants, les familles amenaient les enfants, et puis
pour le culte qui avait lieu à Chavannes, à la Plonta, sauf erreur, ou je ne sais plus quel collège. Et puis les bureaux de l'église qui avaient lieu au Cerisier. Moi, j'ai adoré, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai aimé énormément cette période. Parce qu'on était vraiment dans une sorte de marche dans le désert. Alors c'est vrai qu'on avait la perspective d'entrer dans des locaux. On se disait, mais ça a été long, hein, une année et demie en tout cas, cette période-là. Mais en même temps, il y a eu des moments où il y a eu des percées prophétiques très précises. Je n'ai pas cité certains noms, mais qui étaient vraiment où on voyait que Dieu nous demandait de tenir bon. Bon, alors on n'était pas dans le désert, mais quand même, ce n'était pas facile, notamment pour les familles et les enfants. Et vraiment, il y a eu toutes sortes de trucs, enfin en tout cas une dizaine de prophéties personnellement qui ont touché juste. Et je crois que nous devons retrouver, voire dépasser cette étape pour notre Église maintenant. Que Dieu nous bénisse tous ensemble, on a besoin les uns des autres. Amen.
Merci. Tu peux éteindre. Ouais. Oui, oui. Je m'en souviens aussi, François. Je me souviens surtout des équipes louanges, parce que eux, ils devaient chaque fois amener tout le matériel. On n'avait pas on devait rendre bien sûr la salle du culte chaque. La semaine, on pouvait aller le dimanche, mais la semaine, c'était utilisé pour d'autres choses, hein, forcément. Et la louange, eh bien, vous pouvez venir sur scène déjà, comme ça. Vous êtes dans cette continuité, mais il n'y avait rien du tout. Il fallait qu'on s'amène nos claviers, nos amplis, tout ça. Oui, on avait deux, trois obstacles, mais c'est vrai qu'on a tenu bon, et Dieu est fidèle. Et, en tout cas, je remercie pour cette continuité. Merci les équipes louanges. On ne vous a pas trop cité hier, hein, mais Sabine et tous les leaders et tous les accompagnants, parce qu'il y en a beaucoup, et les techniciens derrière, vous êtes précieux. Vous marchez devant l'arche, hein, vous êtes devant. Merci Seigneur, si je peux aussi demander aux équipes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, hein, c'est vraiment, il y a une complémentarité terrible, indispensable. On ne sait pas comment on fera quand on sera dans des endroits plus arides, hein. Mais je pense que Dieu nous donnera les forces nécessaires. Toutes les autres, je ne sais pas s'il y a des autres, mais des hôtesses pour la Sainte Seine, si vous pouvez vous approcher de la table, merci. C'est tellement bon de pouvoir participer au repas du Seigneur. Pour moi, je trouve ça chouette qu'on puisse le faire tous les dimanches. C'est central. C'est un repas où Dieu nous invite. Et puis, il y a juste un petit épisode, je voulais le dire avant de partager le pain et le vin, enfin, et le jus de raisin, maintenant. C'est les fameux deux disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, on est après la résurrection, oui. Ils marchent sur le chemin qui va à Emmaüs. On ne connaît pas grand-chose, ces deux disciples, au fait. C'est juste qu'il y en a un, il s'appelle Cléopas. Et, ils discutent avec Jésus, ils le reconnaissent bien sûr pas. Ils vont finir par partager un repas avec lui. Ça, je crois que ça, on s'en souvient un peu plus. Et puis c'est pendant qu'ils sont à table, ensemble, que tout d'un coup, après avoir pris le pain, après avoir rendu grâce, ils reçurent, je sais pas comment dire ça, cette révélation. Et puis ils ont reconnu Jésus. Hein. Et moi, des fois, je me pose aussi la question, est-ce qu'on reconnaît vraiment Jésus lorsqu'on partage ce pain et ce jus de raisin? Alors, ces deux disciples, on ne les connaît pas trop. Mais moi, ça m'interpelle parce qu'on pourrait faire partie de ces deux disciples qui, alors, ils connaissaient plein de choses de Jésus puisqu'ils ont raconté tout ce qu'ils ont vu. Mais au final, ils l'ont reconnu un peu tard, quoi. Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, mais pendant le repas. C'est un peu dommage parce qu'ils auraient peut-être pu discuter plus parce qu'après le repas, il n'y avait plus de Jésus, il était déjà loin. Hein. Alors on va essayer ce matin de le reconnaître pour qu'il reste avec nous. Alors c'est vrai que ces deux disciples, ils ont dit à Jésus, mais reste parce qu'il se fait tard, tu vois. Tu ne vas pas partir maintenant. Mais il est quand même parti après le repas. Donc on va se réjouir pour partager ce repas. On va se réjouir parce que Jésus s'est fait connaître à nous. Et j'aimerais encore dire une petite précision pour le pain et le jus de raisin. Je vous prie, les parents qui voudraient le donner à vos enfants, de le dire aux hôtesses, parce que ce n'est pas à eux de le donner aux enfants. D'accord ? On avait un petit peu réfléchi sur cette question. Là, il y a des enfants, très certainement, ils peuvent. Tout se passe, où c'est qu'on met l'âge, hein ? Qui c'est qui peut, qui c'est qui, à quel âge, il y en a qui sont plus mûrs que d'autres. Mais c'est à vous, les parents, de demander à nos hôtesses, si vous voulez, pour partager ce pain, pour le demander à nos hôtesses afin qu'ils vous le donnent. C'est sous votre responsabilité. Alors, on va lire le texte de Marc 14, 22-26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, hein, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Waouh ! On va prendre le repas avec lui, hein. On s'en réjouit ce matin. Alors merci les musiciens, si vous pouvez prendre ce chant. Et vous pouvez déjà distribuer le repas dans les rangs. Merci.
Genoux à tes pieds, je suis émerveillée de voir combien grande est ta majesté. Devant tant de beauté, lorsque ta sainteté de son poids fait plier ma volonté, je m'incline. Par ta grâce, mes péchés sont effacés. Et quand ta majesté me fait réaliser que tu es le grand Dieu d'éternité, je m'incline. Je décrois, j'obéis à ta voix qui répond peu à peu à mes pourquoi. Dans la crainte, je reçois ton pardon à la croix et quand ton amour se saisit de moi, je m'incline.
Seigneur, merci pour ce corps que tu as donné sur cette croix, pour moi, pour nous. Merci pour ce sang.